On est en retard, il est 6h01.
Ils ont le nez bouché, des éternuements, ils ne se sentent pas très bien. Donc ils se posent la question, d'autant plus qu'avec le nez bouché, ben, on perd l'odorat. De toute façon, au moindre doute, on se fait tester et ça permet de trancher.
Les asthmatiques confus en pleine période de Covid, difficile de faire la part des choses tant les symptômes se ressemblent, notamment les difficultés à respirer et la toux. Les Républicains en ordre de marche, le parti de droite se réunit ce matin au comité stratégique pour décider d'éventuelles nouvelles sanctions contre Renaud Muselier après son alliance avec La République En Marche. Les premières excuses de Nordal Lelandais, l'ancien militaire s'est adressé aux proches du caporal Arthur Noyer. Il a aussi promis toute la vérité sur le drame. Et puis la loi climat devant l'Assemblée nationale. Le texte fait notamment la chasse aux véhicules les plus polluants.
À suivre dans des minutes le journal des sports de Lénaïque Monnier. Kylian Mbappé sera-t-il ou non sur le terrain ce soir pour le PSG en Ligue des Champions? Bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mais d'abord, cette annonce cette nuit aux États-Unis. Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage. Des mots publiés par le milliardaire Bill Gates et sa femme Melinda. Le couple a officialisé sa séparation après 27 ans d'union par un simple communiqué publié sur Twitter, Alexis Guilleux.
Oui, nous pensons ne plus pouvoir avancer ensemble en tant que couple, c'est ce que dit ce communiqué, mais tout n'est pas fini pour autant, car les Gates précisent bien qu'ils vont continuer à travailler ensemble au sein de leur fondation, l'une des plus grandes et des plus puissantes au monde, plus de 50 milliards de dollars dépensés en 20 ans, notamment dans le secteur de la santé. La fondation Bill et Melinda Gates s'est tout particulièrement illustrée depuis un an en s'engageant dans la lutte contre la pandémie pour le développement et l'accès aux vaccins. Depuis 2014 et son départ de Microsoft, Bill Gates se consacre d'ailleurs entièrement à cette fondation qu'il pilote avec sa femme depuis Seattle sur la côte ouest. Il est toujours le quatrième homme le plus riche de la planète avec quasiment 130 milliards de dollars de patrimoine, mais va-t-il devoir se séparer d'une partie de cette fortune ? On se rappelle d'un précédent retentissant, le divorce du couple Bezos il y a 2 ans. Le fondateur d'Amazon et sa femme étaient parvenus à un accord. Mackenzie Scott avait alors récupéré 36 milliards de dollars. Pour le moment, le couple Gates n'a pas fait de commentaires et demande de l'espace et de l'intimité pour s'adapter à cette nouvelle vie.
Alexis Guilleux, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Sur le front sanitaire en France, la prise de rendez-vous explose avec l'élargissement de la vaccination. 1 300 000 Français se sont inscrits sur Doctolib pour recevoir leur dose entre mercredi et dimanche dernier.
Et parmi ceux qui sont désormais éligibles à la vaccination figurent les asthmatiques. En cette période de Covid, beaucoup de patients sont perdus et confondent les symptômes des allergies avec celles du coronavirus, Victor Dolande.
Depuis l'apparition des pollens, Marc Sapen, pneumologue et président de l'association Asthme et Allergies, voit affluer à son cabinet de très nombreux patients avec des problèmes respiratoires. Des patients qui sont perdus et se demandent s'ils ont des allergies, de l'asthme ou le coronavirus.
Ils ont le nez bouché, des éternuements, ils ne se sentent pas très bien. Donc ils se posent la question, d'autant plus qu'avec le nez bouché, ben on perd l'odorat. Tout le monde a entendu parler de perte d'odorat et de Covid, ils se demandent si c'est du Covid. En fait, la plupart du temps, heureusement, non, parce que dans le Covid, il y a un contexte infectieux, on a des courbatures, on est fébrile. De toute façon, au moindre doute, on se fait tester et ça permet de trancher.
Il ajoute un conseil très important pour les patients qui suivent actuellement un traitement.
Lorsque la muqueuse est inflammatoire, les virus rentrent plus facilement à l'intérieur du corps et donc on a plus de chances de se faire contaminer. Donc message pour les asthmatiques et allergiques, surtout faites actuellement très bien votre traitement.
Le traitement contre l'allergie ou l'asthme devient donc un geste barrière contre le Covid, encore plus pour les personnes asthmatiques qui prennent des corticoïdes en inhalateur. Selon une récente étude menée par des chercheurs anglais, ce traitement éviterait davantage aux patients de faire une forme grave du Covid.
Et si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à composer le numéro vert Asthme et Allergie Info Service, c'est le 0800 19 20 21.
Il est 6h05 sur Europe 1 en politique. Renaud Muselier va devoir s'expliquer. Déjà privé de l'investiture LR après son alliance avec La République En Marche, il va être entendu ce matin devant l'état-major du parti.
Avant cela, le président sortant de la région Sud a fait une mise au point assez nébuleuse. Finalement, aucun parlementaire ni ministre du parti présidentiel, à commencer par Sophie Cluzel, ne seront les bienvenus sur sa liste.
Notre région d'abord, cela veut dire qu'il n'y a pas d'accord d'appareil, qu'il n'y a pas de fusion de listes. Et pour la composition de ces listes qui ne sont pas faites, je donnerai la priorité aux candidats qui s'engagent à se consacrer de toute leur force à des enjeux locaux et non nationaux, ce qui exclut les détenteurs de mandats nationaux, que ce soit les ministres, les députés, les sénateurs et les députés européens. Je le répète, personne ne peut douter de ma loyauté de ma fidélité à l'égard de ma famille politique. L'investiture, je ne l'ai jamais demandé. J'ai demandé le soutien de ma famille politique. Et donc, je redemanderai le soutien de ma famille politique, conformément au statut que je connais parfaitement. Mais je ne veux pas d'accord d'appareil, et je veux mener cette campagne, et nous la mènerons avec l'esprit le plus large possible.
Le soutien, c'est-à-dire pas de candidat en face?
Je ne sais pas qui a pu avoir une idée pareille.
Ça vous fait peur, une liste l'air, en face à vous?
Souvent, on me pose la question de savoir si j'ai peur. C'est mal me connaître. Je n'ai pas peur de grand-chose.
Et Renaud Muselier, le président du Conseil régional de PACA, au micro européen de Frédéric Michel. Et l'accord entre les Républicains et la République en marche en région sud crée aussi des remous au sein de l'aile gauche de la majorité, Claudia Bertram.
Oui, car même si au sein de la majorité, tous avaient en tête de rejoindre éventuellement Renaud Muselier au second tour, un accord dès le premier fait grincer des dents. Il faudrait que son programme reflète aussi des valeurs de gauche, me confiait la ministre du Logement Emmanuelle Wargon. Comme d'autres membres du gouvernement, elle fait partie de Territoires de Progrès. Le cofondateur du mouvement, Gilles Savary, ne cache pas ses réserves.
Nous sommes à la fois déçus et un peu inquiets. Il y aura des pertes à gauche du côté de la majorité présidentielle et il y aura des pertes à droite du côté de Renaud Muselier.
À la gauche de la Macronie, position plus ferme d'En Commun qui compte une vingtaine d'élus et qui dit condamner fermement l'accord en PACA. Pour sa porte-parole, Cécile Rilhac, la recomposition politique tire un peu trop à droite.
En 2017, le dépassement qui allait d'un large centre-gauche à un large centre-droit, nous nous y retrouvions. Là, le barycentre, on voit bien qu'il glisse à droite. Nous ne retrouvons pas nos petits, nous retrouvons nos électeurs non plus.
Dans la presse ce matin, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, plaide pour une stratégie équilibrée. Des alliances systématiques avec la droite ne seraient pas comprises par nos électeurs, dit-elle. À l'heure où la Macronie tente de déstabiliser la droite, l'aile gauche de la majorité veut continuer à peser.
Claudia Bertram pour Europe 1.
Au volet judiciaire, deuxième jour du premier procès de Nordal Lelandais. L'ancien militaire a promis toute la vérité. Une première confrontation a eu lieu hier entre l'accusé et la famille d'Arthur Noyer.
Avec les premières excuses de Nordal Lelandais, mais toujours pas de précision sur les circonstances du meurtre du caporal de 23 ans, Marion Dubreuil.
Oui, pour le moment, Nordal Lelandais s'en tient à sa version, celle d'un accident. J'ai tué Arthur Noyer, mais je n'ai jamais voulu lui donner la mort. L'accusé, en chemise bleue cintrée, barbe poivre et sel soignée, a raconté à la cour qu'il a vécu un basculement en 2017, l'année des meurtres d'Arthur et de Maëlys. Une dépression liée à une déception amoureuse. Il consomme alors de la cocaïne dès le matin, de l'alcool. Il se sent, dit-il, comme un vagabond. La famille du caporal Noyer a bien tenté d'ouvrir une brèche dans sa ligne de défense, en le confrontant à sa victime tout d'abord, en plaçant une grande photo d'Arthur souriant face au box, en cherchant à le faire parler, par l'intermédiaire de son aumônier, de ses proches. Sa mère l'a imploré de dire la vérité pour les parents d'Arthur, pour tout le monde. Nordal Lelandais lui a promis qu'il allait tout dire, car c'est le seul qui peut aujourd'hui raconter ce qui s'est passé cette nuit-là. Il n'y a pas de témoin direct, même l'autopsie qui atteste d'un déchaînement de violence et d'un acharnement sur le visage d'Arthur Noyer ne permet pas de déterminer les causes de sa mort.
Marion Dubreuil pour Europe 1.
Et puis le projet de loi climat sera voté solennellement aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'un des objectifs du texte est de créer des zones de faible émission pour les villes de plus de 150 000 habitants.
Les vélos cargo pourraient s'imposer comme une alternative aux véhicules les plus polluants. Les véhicules cargo, ce sont de grosses bicyclettes électriques capables de transporter de lourdes caisses. Elles servent aux artisans, aux livreurs ou aux plombiers. Leur achat et leur utilisation seront subventionnés. Jean-Sébastien Soildi.
Il s'agit d'éviter le recours à la bonne vieille camionnette diesel pour transporter des marchandises ou assurer des livraisons. Pour ça, la première des incitations sera de financer chaque colis livré jusqu'à 2 euros. L'idée est aussi de pousser les artisans à en acheter car ces vélos restent chers, environ 4000 euros l'un, donc pour réduire l'investissement, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, veut les inclure dans le champ de la prime à la conversion.
Lorsqu'un particulier ou une entreprise se sépare d'un vieux véhicule thermique, ils pourront être aidés pour l'achat de vélos électriques ou de vélos cargo.
Pas d'indication sur le montant de la prime, mais la Fédération des usagers de la bicyclette n'imagine pas moins de 2500 euros pour compenser l'envoi d'un vieux fourgon à la casse. Développer le parc ne suffit pas. Le vélo cargo, c'est pour les courtes distances. Les collectivités devront créer des hubs, des centres de stockage et de stationnement pour que les artisans usagers n'aient pas à faire de trop longs trajets. Mais même sur de petites courses, le gain est conséquent. Un vélo cargo, c'est 85% de CO2 en moins qu'une fourgonnette. Mais attention, pollution. L'idée n'est pas là de lutter contre le réchauffement climatique, il s'agit plutôt de rendre l'air des grandes villes plus respirable.
Jean-Sébastien Soldaini.
Merci, c'était le journal d'Émilie Dez, il est 6h11. Le sport, c'est avec Lénaïc Aumônier. Exploit obligatoire, Lénaïc, ce soir pour le Paris Saint-Germain.
Oui, Paris qui défie chez lui Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des Champions après le revers parisien 2-1 à l'aller et peut-être sans Kylian Mbappé, dont on saura dans la journée seulement s'il pourra jouer ou non. L'alignement des planètes n'est pas optimal, mais la qualification reste faisable à condition de ne pas paniquer et d'attaquer. Écoutez Marco Verratti.
Il faut rester lucide, il faut rester calme parce qu'on va avoir notre opportunité. C'est pas un match qu'on a perdu 4-0, qu'il faut faire un miracle. Sûrement qu'ils sont un petit avantageux pour le match aller, mais je pense qu'on est là, on est proche, on doit tout donner sur le terrain. Ça passe pour des petits détails, ça passe pour les jeux aussi de City, que c'est un jeu qu'il faut jouer avec le ballon. C'est à nous de jouer aussi avec notre style de main.
Marco Verratti avec Julien Froment. Alors, exploit après tout, pourquoi pas? Cette saison, Paris brille à l'extérieur et a fait tomber deux mastodontes de la compétition, le Barça et le Bayern Munich. Jamais 203 pour notre consultant Laurent Fournier.
Alors oui, j'y crois, parce que le Paris Saint-Germain a fait une énorme première mi-temps au Parc des Princes. Sincèrement, dans l'animation, dans la récupération, c'était impressionnant. Maintenant, il va falloir qu'il soit beaucoup plus présent en deuxième période. Éviter que Manchester prenne le ballon, éviter que Manchester utilise la largeur. Pour ça, il va falloir être bien en place, agressif sur le porteur du ballon.
Laurent Fournier, ex-entraîneur du PSG avec Cyril de la Morinerie. Le match est à 21h ce soir, mais prise d'antenne dès 20h sur Europe 1.
En rugby, deux jours après, l'effervescence n'est pas retombée à La Rochelle.
Marée jaune sur la ville après la qualification de l'équipe pour la finale de la Coupe d'Europe. Les Rochelais n'ont pourtant que le 8e budget du top 14. Le club était en Pro D2 il y a 7 ans. Une belle montée en puissance, donc, de la part de l'équipe et la fierté d'un président, Vincent Merling.
On a structuré le club aussi sur le plan sportif avec un centre de performance de très haut niveau pour permettre à nos joueurs de pouvoir justement se préparer à des matchs, à un futur glorieux. Et petit à petit, apparemment, on y arrive, quoi.
La finale de la Coupe d'Europe, c'est le 22 mai, Toulouse, La Rochelle, à Twickenham et en public.
Et puis en MotoGP, Fabio Quartararo sera opéré dans la journée.
Oui, le motard français souffre bien d'un syndrome des loges. C'est une blessure assez commune chez les motards qui touche les avant-bras. Opération prévue aujourd'hui après un problème musculaire contracté ce week-end lors du Grand Prix d'Espagne. Et puis s'offrir Rafael Nadal le jour de ses 18 ans, qui plus est au tournoi de Madrid. C'est le cadeau que s'est offert le jeune espoir espagnol Carlos Alcaraz. Après avoir éliminé, pas de chance, le français Adrien Manarino, les deux Espagnols s'affrontent dans la journée.
Merci Lénaïc Monnier. Europe 1. Il est 6h14 sur Europe 1. Nous sommes le mardi 4 mai, May the 4th, comme disent les Anglais. Et les fans de Star Wars qui en ont fait leur journée mondiale avec ce jeu de mots, May the Force be with you, que la force soit avec vous. À cette occasion, mon invité inattendu a assuré la défense au procès de Dark Vador, mais oui.
Monsieur le président de la Cour intergalactique, mesdames, messieurs les jurés, quand vous prendrez votre décision, je voudrais que vous n'oubliez pas que derrière ce masque, il y a aussi Anakin Skywalker.
Bonjour maître.
Bonjour, c'est maître Antoine V.
Bienvenue sur Europe 1. Vous avez en effet officié lors d'un vrai faux procès organisé au Grand Rex à Paris il y a quelques années. On va voir ce qui vous lie, vous, l'une des grandes robes noires de France, au côté obscur de la Force. A tout de suite.
Théo Manval sur Europe 1.
À 6h16, mon invité inattendu en cette journée mondiale des fans de Star Wars, le 4 mai, May the 4th, a donc défendu Dark Vador lors d'un vrai faux procès organisé par la Fédération Française du Débat. Maître Antoine Vert, on pose souvent la question aux avocats, comment pouvez-vous défendre les pires criminels de la Terre? Mais là, un être qui veut carrément anéantir la galaxie entière, vous n'avez pas hésité une seconde?
Non, quand on est avocat, on n'hésite pas à défendre parce que c'est comme un médecin n'hésiterait pas à soigner. Donc on a l'habitude de dire qu'on défend pas le crime, mais on défend la personne qui est derrière le masque.
Bon, et plus sérieusement, comment est-ce qu'il est né ce projet de procès Dark Vador au Grand Rex? C'était en 2017, il y a 4 ans.
Vous voyez, ça reste un souvenir assez incroyable. C'était une association étudiante qui avait décidé comme ça spontanément de louer le Grand Rex. C'était à l'occasion de la sortie des nouveaux Star Wars. Mais je pense qu'ils avaient été eux-mêmes complètement dépassés par l'événement et on avait vu arriver des hordes de personnes avec des sabres laser. Et c'est vrai que à l'époque, ça avait été quelque chose d'assez incroyable à vivre, un vrai faux procès avec des vraies télévisions, et on avait le sentiment que finalement tout ça devenait réel.
Bon, et avant d'accepter, vous étiez un familier, vous, de l'univers Star Wars ?
Oui, je suis comme tous les gens de ma génération, c'est-à-dire qu'on est un petit peu baigné dans les différentes versions de Star Wars. Et puis c'est une histoire qui est tellement universelle qu'on peut y voir ce qu'on a envie d'y voir. Ce qui était plus amusant, c'était à l'époque de traîner avec moi dans la Défense deux avocats un petit peu plus âgés qui, je crois, étaient tout à fait sidérés par le pouvoir de la Force de ce public qui était totalement délirant en réalité.
Dont votre mentor est désormais ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.
Exactement. Qui, avant de rentrer dans la salle, m'a dit, au moment où on est rentré dans le public, m'a dit, mais au fait, c'est qui Dark Vador ? Donc, il était totalement imprégné de la défense de celui que 10 minutes plus tard, il allait défendre. Mais c'est vrai que c'était un souvenir vraiment, vraiment super sympathique.
On l'a entendu dans l'extrait tout à l'heure, il y a en tout cas de la dérision, il y a de l'humour. Mais il y a aussi de quoi faire passer des messages plus sérieux dans une plaidoirie de spectacle comme celle-là.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'était intéressant. J'ai le souvenir que c'était à une époque où le Front National venait de remporter des régions ou des élections, ou du moins des premiers tours d'élections. Et on avait évidemment brodé autour de ce phénomène politique qui était à l'époque quelque chose d'assez nouveau. Et puis, c'est toujours l'opportunité de montrer à des gens. Alors, bien sûr, un faux procès, mais qui quand même contient toutes les ficelles d'une vraie justice, c'est-à-dire la défense d'un accusé. Le fait de trouver des arguments pour pouvoir expliquer que chaque homme mérite d'être défendu. Donc il y a derrière toute œuvre, on va dire, humoristique, la possibilité de faire quelque chose de pédagogique. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant.
Puisque vous en parlez, Maître Antoine Vey, je voudrais d'ailleurs qu'on écoute un deuxième extrait.
Et c'est à partir de ce moment-là qu'il est rentré dans la grande délinquance, Monsieur le Président. Nous ne disons pas le contraire, il a fait ça. Mais au fond... Il faudra vous souvenir, au moment de prendre votre décision, que en chacun d'entre nous, comme en lui, cohabite le bien et le mal. Et que, à la fin de la fin, chez lui, c'est le bien qui a triomphé. Vous l'acquitterez donc, car en lui laissant cette chance, vous direz que le bien est toujours plus fort que le mal.
Voilà, laisser triompher le bien sur le mal en acquittant un prévenu, ça se plaide ça dans une vraie cour d'assises ?
Alors les vraies cours d'assises essaient de dépasser un petit peu la notion du bien et du mal, mais c'est vrai que au fond il y a la question de la justice, c'est-à-dire que la justice n'est pas quelque chose d'immédiat, d'instantané, de facile à réaliser, et le débat qui se joue devant une cour d'assises met parfois les jurés, les juges, les avocats devant des contradictions internes, des préjugés qui tombent. Donc il y a une vraie tragédie ou parfois une comédie, mais enfin quelque chose de l'ordre de l'œuvre dans la question de la justice. Donc c'est vrai que Star Wars, dans sa version un peu philosophique, met en avant le destin des hommes qui bascule. Voilà, donc des choses qui étaient tout à fait à propos dans le cadre de ce procès fictif.
Vous êtes, Maître Antoine Vey, à bientôt 37 ans, l'une des figures montantes du barreau. Déjà un ténor, disent certains, puisque vous avez repris les dossiers et les clients de votre ancien mentor et associé Éric Dupond-Moretti à son entrée au gouvernement. Vous dites, sur l'origine de votre vocation d'avocat, que vous avez toujours aimé faire rire et faire réfléchir aussi.
Bah, disons que vous avez beaucoup parlé de celui qui m'a accompagné effectivement au début et qui disait tout homme qui se prend au sérieux est condamné à mourir d'ennui. C'est vrai que on a une profession dans laquelle on est face à des enjeux difficiles, des vies qui sont parfois brisées, mais on essaye quand même d'avoir un recul, un équilibre qui fait que il faut savoir voir un petit peu plus loin. Alors je sais pas si on en est toujours capable, et puis parfois quand on pense faire rire, on n'est pas forcément toujours drôle. Mais en tout cas, c'est sûr que il faut dans la vie d'un avocat avoir un petit peu de dérision quand même, parce que sinon les enjeux vous dépassent.
Un humour en tout cas qui vous avez obtenu dans cette plaidoirie spectacle, l'acquittement pour Dark Vador à ce vrai faux procès. Merci beaucoup Antoine Vey d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu ce matin, et may the force be with you en cette journée des fans de Star Wars partout sur la planète. Bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Europe 1, Théo Manval.
Votre 5-7 se poursuit en musique avec cette révélation, Leon Bridges, dans la partition d'Omblin Roche dans quelques secondes.
Europe 1.
À 6h24, l'histoire qui se cache derrière un artiste, une chanson, un disque. Il est présenté depuis 6 ans, depuis la sortie de son premier album, comme la nouvelle étoile de la musique soul américaine. Vous nous parlez ce matin en Blin Roche du chanteur Leon Bridges et vous le présentez à celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore.
Ah bah oui, il faut pour cela ce matin, Théo, pendant 5-6 minutes. Eh bien, nous ne serons pas le 4 mai 2021, mais quelque part au beau milieu des années 60. Leon Bridges propose une musique jouée dans la grande tradition rhythm and blues, bien rétro comme son look, une veste en tweed pied de poule et un pantalon en velours côtelé cool et classe à la fois.
Commençons par le commencement. Blin, qui est-il, ce Leon Bridges?
Un prodige texan de 31 ans aujourd'hui. Ce n'est pas le prénom écrit sur ses papiers d'identité. Il est en réalité Todd Michael Bridges. Il est surnommé Leon par ses camarades de lycée pour sa ressemblance avec le comédien Leon Robinson vu dans Ali ou Rasta Rocket.
Et Leon Bridges n'est pas musicien à l'origine.
Non, c'est la danse qui l'intéresse, qu'il étudie à l'université au Texas. Sa voix gorgée de blues lui permet cependant de se produire dans un bar. Il s'initie à la chanson lors de ce qu'on appelle des jam sessions, plutôt friand de R&B. Il découvre, après tout le monde, l'icône et pionnier de la soul, Sam Cooke, une révélation. Et il dit « Je me suis demandé pourquoi les musiciens qui aimaient la musique de cette époque se focalisaient sur l'aspect funky de la soul, celle de James Brown, et pourquoi personne ne donnait sa chance au doo-wop. » Quelle clairvoyance. New Orleans, New
Orleans, Louisiana. Les débuts de Leon Bridges dans la musique professionnelle sont le fruit du hasard.
Voilà, un destin, alors c'est vrai, un peu provoqué hein, dans les clubs de son quartier, mais il n'imaginait pas être repéré par un membre du groupe de rock White Denim, grâce à qui il va tout de suite signer avec la maison de disques Columbia.
Et son premier album est comme un signe de la main adressé directement à Sam Cooke.
Et voilà, comme s'il le remerciait, une musique doo-wop, très 60s, gospel et blues, avec des textes simples sur l'amour, la famille et surtout, Coming Home est enregistré sur du matériel analogique 100% vintage. Il chante en studio avec ses musiciens façon live, d'où ce son particulièrement authentique. Baby, 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 I'm coming home to your tender sweet love and you're my one and only one.
Coming Home est acclamé par la critique et par le public. Pour son deuxième album, Leon Bridges élargit ses horizons.
Il multiplie ses influences, le funk de Kool & The Gang ou de Chic, de l'électro-jazz aussi. Il s'affirme plus, dessine plus précisément les contours de sa personnalité. Good Thing s'ouvre justement sur un morceau autobiographique, un afro-américain, texan, que les autres voyaient perdre, parti avec pas grand-chose, mais qui s'est battu pour réussir. I got a heart that's strong, and a love that's tall. Ain't got no name, ain't got no fancy education, but I can see right through a powdered face on a painted fool. Let me slip through. Let me slip through. Why you tryna hold me back? I'm just tryna move up front, little more this, little less of that. Can't you feel me? Let me come through. Let me come through. I'm tired of being in the back. I'm just tryna move.
Watch the ankles break. Whoa, whoa. I know you wish, I know you wish I would fade away. But I got more to say. Lord, they pray. Good thing, got a bad, bad news. All day I
ses cuivres, hein, ce son synthé, ses rythmes appuyés, Leon Bridges et l'extraordinaire Bad Bad News. C'est un extrait de l'album Good Thing qui est sorti il y a 3 ans, hein, le 4 mai 2018.
Et depuis, il multiplie les collaborations et les représentations. On attend à suivre, vous viendrez nous
plaisir.
En parler, Amblin. L'histoire cachée derrière une chanson, un artiste, un groupe, c'est la partition d'Amblin Roche tous les matins juste avant 6h30.
Merci.
Et juste avant la météo de Laurent Cabrol.
Avec des températures ce matin qui se situent entre 5 et 12 degrés, je vous ai coupé la parole, pardonnez-moi, 5 à Mulhouse, 8 à Marseille, 10 degrés à Lille, 11 à Caen et 12 à Nantes. Tiens, à Lille, justement, où Europe 1 se trouve aujourd'hui, la France bouge, l'émission La France bouge, entre 13 et 14 heures à la Chambre de commerce, ça se passe là-bas et c'est Europe 1 qui est présent sur place. Ensuite, nous allons avoir, dans le courant de la journée, des températures, des valeurs de 13 à 21 degrés, 13 à Nancy, 21 à Lyon, passant par 17 à Paris. La couleur du ciel rapidement, sur le littoral de la Manche et les Ardennes, fin progressivement de la pluie car il a plu, le vent se calme, il a été très violent cette nuit. Sur la vallée de la Loire, la région parisienne, la Champagne et la Lorraine, nous allons vers des éclaircies au fil des heures. Sous le Poitou-Charentes, le massif central, la Bourgogne, l'Alsace, la Franche-Comté, le Bordelais et la région Rhône-Alpes, là c'est l'inverse, de plus en plus de nuages avec de la pluie dans la deuxième partie de journée. Enfin sur l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées et le bassin méditerranéen, voilé, mais... impression agréable.
Merci Laurent, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Nous sommes le mardi 4 mai, bon réveil. Un nouveau journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour.
Il est 6h30.
Macron réussit encore à attirer des gens de la droite vers lui. C'est incroyable. Pour moi, c'est un grand succès politique. C'est redoutable. C'est magnifique ce qui s'est passé.
Les sympathisants macronistes se réjouissent du coup politique porté à la droite avec le rapprochement des Républicains et des marcheurs en PACA. Loin des polémiques de 2021, c'est en 1821 que s'apprête à nous ramener Emmanuel Macron, bicentenaire de la mort de Napoléon et le sens politique que l'actuel chef de l'État veut donner à cet anniversaire. Et puis du sur-mesure, c'est la promesse faite aux restaurateurs et aux dans la perspective du redémarrage de leur activité et de la baisse progressive des aides publiques.
Juste après ce journal, 1 millier de nouveaux postes pour réduire les délais dans la justice du quotidien. Les divorces, les prud'hommes, le syndicat de la magistrature. Se satisfait-il de ces annonces hier du ministre de la Justice ? Anne-Sophie Valac, secrétaire nationale du syndicat, est avec nous dans 10 minutes. Bon réveil, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il faut imaginer la scène qui va avoir lieu. Deux fois, aujourd'hui, au siège des Républicains à Paris, deux réunions, le comité stratégique, puis la commission d'investiture. Renaud Muselier sera présent à chaque fois, lui qui risque des sanctions après son rapprochement avec La République En Marche en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, dans cette région, que disent les sympathisants des deux partis en question ? Stéphane Frangy pour Europe 1 est allé les chercher sur ce thème.
Militante convaincue depuis 17 ans, Sandra Blanchard aujourd'hui ne comprend pas la réaction des Républicains vis-à-vis d'un Renaud Muselier qui pilotait déjà une majorité régionale issue de la droite et du centre.
Soit les Républicains sont schizophrènes, soit ils sont d'une mauvaise foi incroyable. Et ils viennent nous dire que tout ça, c'est pas bien parce que ça fait pas leurs affaires pour la présidentielle de 2022 parce qu'ils veulent un candidat contre le candidat En Marche. Bon, mais ça c'est leur sauce. Vraiment, les affaires d'appareil, ça n'intéresse que les gens de l'appareil, c'est-à-dire 0,005% du corps électoral.
Mais l'idée de tout rapprocher franchement, passe mal auprès de certains électeurs de toujours, comme Catherine.
Cette association, ouais, me dérange en fait. Parce que moi, je dois être de la vieille garde. Politiquement, on reste sur son parti de cœur.
Et les militants La République En Marche, pour leur part, applaudissent ce rapprochement local.
C'est rêvé pour nous, c'est du pain béni. C'est ce qui aurait dû se passer au municipal. C'est tant mieux, c'est-à-dire que Macron réussit encore à attirer des gens de la droite vers lui. C'est incroyable. Pour moi, c'est un grand succès politique, c'est redoutable. C'est magnifique ce qui s'est passé.
Car Renaud Muselier incarne, selon eux, une droite modérée, compatible avec les différents courants centristes. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Et notez que le chef du service politique d'Europe 1, Michaël Darmon, viendra nous dire en direct dans le journal de 7h dans quel état d'esprit se trouve ce matin Renaud Muselier. Confidence à suivre. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron va lui prendre de la hauteur.
Oui, lui qui a supervisé cet accord politique va en effet regarder plutôt du côté de l'histoire, avec un grand H et d'un homme qui avait su lui aussi diviser pour mieux régner, Napoléon. Demain, 5 mai, cela fera 200 ans exactement qu'il est mort. Jean-Rémy Baudot, quel est le sens politique qu'Emmanuel Macron veut donner à ces commémorations ?
Eh bien, ces commémorations, elles s'inscrivent dans le projet mémoriel d'Emmanuel Macron de, je cite, « regarder notre histoire en face », promesse faite pour Napoléon, comme auparavant pour l'Algérie ou le Rwanda. L'Élysée a évidemment bien perçu le risque politique de cette date. Voilà pourquoi un important conseiller tente de déminer par avance. « Commémorer n'est pas à célébrer », dit-il. Et il promet un discours ni hagiographique, ni dans le déni, ni dans la repentance. Une fois ces principes posés, on ne peut pas faire abstraction des polémiques autour de Napoléon. Sa figure divise la classe politique depuis 2 siècles. La droite loue régulièrement son héritage et sa figure de chef, quand la gauche souligne son autoritarisme et sa décision de rétablir l'esclavage. Emmanuel Macron a-t-il des messages politiques à faire passer à travers cet événement? Son entourage dément affirme simplement que la République a gardé le meilleur de l'empereur. Mais comme pour cultiver un en même temps mémoriel, l'Élysée laisse entendre qu'il n'est pas exclu qu'Emmanuel Macron commémore aussi les 150 ans de la Commune de Paris après Napoléon. Comme si droite comme gauche devaient avoir droit à leur commémoration.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Il est 6h34. La campagne de vaccination s'est encore élargie samedi dernier. Mais certains, assez jeunes et en bonne santé, ne veulent pas attendre leur tour.
Et ils tentent leur chance, hein, quitte à prétendre souffrir d'une comorbidité, ouvrant le droit au vaccin dès maintenant. Une forme de fraude sans grande conséquence au moment où on cherche aussi à éviter tout gaspillage de doses. Mais cela oblige tout de même les personnels des centres à redoubler de vigilance. Comme à Nantes, où on réalise environ 2200 injections par jour. Gaëtan Tanguy est responsable du pôle protection des populations de Nantes Métropole.
À l'accueil, on vérifie qu'il y a une pièce justificative d'un médecin généraliste qui les autorise à être vaccinés malgré leur âge. Si ce n'est pas le cas, sur le questionnaire de vaccination qu'on leur remet, on met un M pour médecin parce qu'en fait, les personnes vont être orientées vers une consultation médicale avant la vaccination. Quand on a un doute, on fait vérifier par le médecin. Quand on voit qu'il y a une tentative de fraude, on demande aux personnes de partir et on leur dit qu'ils ne peuvent pas être vaccinés. C'est rare, comme dans tous les centres, dès lors qu'il y a une règle, il y a des gens qui essayent de contourner la règle. Donc oui, ça arrive. Puis on en a 5 ou 10 par jour, quoi. Mais nous veillons au grain de façon à éviter les abus. De toute façon, une personne qui n'est pas prise, c'est un créneau qui est libéré. Pour un peu plus tard, on arrive à réguler. Il n'y a pas de vaccin de perdu, pour ça c'est certain.
Gaëtan Tanguy au micro de Charles Guyard.
Et notez que le ministre de la Santé, Olivier Véran, cela sera l'invité exceptionnel de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h15.
Sur le plan économique, la crise sanitaire amène un marathon cette semaine, marathon de négociation à Bercy.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, reçoit les représentants de tous les secteurs les plus touchés pour voir comment diminuer progressivement les aides en fonction de la reprise.
Et les premiers invités hier ont été ceux de l'hôtellerie-restauration, avant même de négocier les aides. Carole Ferry, Bercy veut déjà que la saison se passe bien.
Oui, et pour que la saison se passe bien, les hôteliers seront autorisés à ouvrir leurs restaurants, y compris en intérieur, dès le 19 mai, uniquement toutefois pour leurs clients. Par ailleurs, l'été devrait se passer sans jauge, selon le président de la Fédération des chaînes hôtelières, Jean-Virgile Krantz.
À partir de cet été, nous n'aurions plus de jauge à appliquer, quelles que soient les activités, que ce soit restaurant d'hôtel ou restaurant tout court et bar. Il n'y aurait plus de jauge à partir du mois de juillet.
Il y a donc cette volonté que les professionnels réussissent leur saison. En parallèle, le gouvernement diminuerait progressivement les aides avant de retirer totalement la perfusion au mois de septembre. Toute la question maintenant est de savoir à quel rythme se fera cette dégressivité et sur quel mode de calcul. Le secteur de l'hôtellerie-restauration alerte sur le fait que la reprise ne sera pas la même pour tout le monde. Se pose notamment la question des grandes villes comme Paris, qui ne pourront pas redémarrer tant que la clientèle étrangère et le tourisme d'affaires ne sont pas revenus.
Carole Ferry du service économie d'Europe.
Enfin les sports et bien sûr le football, c'est l'heure de vérité pour le Paris Saint-Germain.
Oui, après sa défaite 2-1 à l'aller au Parc des Princes, Paris va devoir réaliser un nouvel exploit sur la pelouse de Manchester City ce soir pour espérer disputer une deuxième finale de Ligue des Champions. En face, il y a donc Manchester qui s'est rapproché d'un nouveau titre de champion d'Angleterre après sa victoire à Crystal Palace ce week-end. Cyril de la Morinerie, les Sky Blues ont largement fait tourner leur équipe.
Oui, Manchester City affiche sa confiance, d'autant que les joueurs ont pu souffler ce week-end. Pep Guardiola a laissé 9 titulaires au repos, ce qui n'a pas empêché l'équipe de s'imposer en championnat. Les Anglais veulent maintenant se qualifier avec la manière, annonce le défenseur John Stones.
On doit garder la même approche que lors des matchs précédents. Essayer de défendre et conserver le résultat, ce n'est pas pour nous. On va tout faire pour gagner le match et jouer comme City. On est très concentrés sur la tâche qui nous attend.
Et Manchester City pourra en plus s'appuyer sur sa défense de faire la meilleure de la Ligue des Champions avec seulement 4 buts encaissés, souligne l'ancien joueur du PSG, Laurent Fournier.
La défense de Manchester, elle est impressionnante. Elle a pris un peu l'eau en première période. Après, en deuxième mi-temps, ils sont montés d'un cran à Neymar et à Mbappé de faire les appels nécessaires et de se concentrer juste pour l'attaque.
Mbappé, auteur d'un triplé sur la pelouse du Barça, et Neymar, rayonnant à Munich, ont encore les clés pour renverser la situation. D'autant que Lyon l'a fait il y a 3 ans. Les Lyonnais s'étaient imposés 2-1 à Manchester. Un score qui permettrait aux Parisiens de disputer les prolongations.
Et ben voilà, tout est possible. C'est ce que vous nous dites, Cyril Lamorinerry. Et pour le vérifier, c'est ce soir sur Europe 1, soirée spéciale dès 20h et jusqu'à 23h30, le match diffusé en direct et en intégralité.
Merci, c'était le journal de François Geffrier. Et il est 6h39.
Théo Manval sur Europe 1.
Et j'accueille l'invité de ce 5-7. Bonjour Anne-Sophie Valac.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Le ministre de la Justice a annoncé hier le recrutement à venir de 1000 juristes assistants et renforts de greffe. 1000 personnes en plus pour tenter de réduire les délais dans les affaires du quotidien. Je vais donner quelques exemples. 14 mois d'attente en moyenne pour une affaire en première instance, 17 mois en appel, 18 au prud'homme. 1000 postes pour accélérer les délais dans cette justice du quotidien. Anne-Sophie Valac, c'est donc une bonne nouvelle?
Bah écoutez, pas vraiment, parce qu'en fait, pour faire réduire les stocks dans les juridictions, c'est pas de contractuels que la justice a besoin, c'est de magistrats et de fonctionnaires de greffe. Or, qu'est-ce qu'on constate, c'est que cette année, il y a 50 magistrats en plus par rapport à l'année précédente, alors que l'année dernière, il y en avait 100 en plus. Donc, on va pas du tout dans le bon sens, et c'est pas le recrutement de 1000 personnels de greffe, enfin, de personnel de juristes assistants ou personnel qui feront fonction de personnel de greffe, qui ne sont pas formés et qui auront donc des contrats précaires, qui va changer malheureusement la situation dans les juridictions.
C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes qui sont embauchées pour de longues durées, c'est un an renouvelable 3 fois, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, 1 an ou 3 ans, mais en réalité, peu importe, parce que si vous voulez, la justice du quotidien, la justice civile, c'est quoi pour les personnes? C'est avoir une audience, voir un juge, quelqu'un qui les écoute, qui prend le temps, qui rend un jugement dans un délai raisonnable, un jugement qui est motivé, qui explique sa décision, que ce soit pour rembourser un crédit à la consommation ou effectivement régler un litige de voisinage ou fixer une pension alimentaire. Et ça, c'est pas avec des personnels contractuels qu'on pourra le faire. Ça nécessite des magistrats et des fonctionnaires de greffe qui sont formés et qui sont en mesure de procéder à ces tâches-là.
Vous dites que ce sont des postes précaires. Le garde des Sceaux répond, c'est du sucre ultra rapide. Il faut 2 ans et demi, je le cite, hein, il faut 2 ans et demi pour former un magistrat, 1 an et demi pour un greffier. En gros, dit Éric Dupond-Moretti, on fait ce qu'on peut pour que ça aille vite. Vous n'êtes pas d'accord?
Non, parce que en réalité, les stocks qu'on a l'air de découvrir, ça fait des années qu'ils existent. Le ministre de la Justice, il se fonde sur un rapport.
1 300 000 dossiers en souffrance, hein, quand on parle de ces stocks.
Oui, tout à fait. Et tous ces dossiers, ils sont évidemment pas nés de la crise sanitaire ou de la grève des avocats qui l'a précédée. Ils existent depuis des années, des dizaines d'années même, on peut dire. Et c'est donc pas de sucre ultra rapide dont on a besoin, mais c'est de mesures qui sont dans la durée. Et encore une fois, ce sont pas les mesures qui sont prises. Cette année, pour former des magistrats et des procureurs, certes, ça prend du temps, mais cette année, il y aura que 260 places à l'école de la magistrature à peu près, alors que ça fait 5 ans qu'on en a plus de 300. Donc encore une fois, ça va pas dans le bon sens du tout pour régler les choses dans la durée. Les personnels contractuels, dans 3 ans, dans 5 ans, ils seront plus là. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les affaires qui seront à ce moment-là à traiter dans les juridictions?
Donc pour vous, il faut relever une forme de numerus clausus, si j'ai bien compris, à l'École nationale de la magistrature. Concrètement, en attendant, puisque c'est ça qui a été décidé, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, ces juristes assistants et ces renforts de greffe?
Ben, les juristes assistants, ils permettent effectivement d'assister le juge dans la rédaction, même si évidemment ça demande de les former et ça demande évidemment de travailler avec eux, donc c'est pas forcément un bénéfice immédiat. Et les personnels qui assistent, enfin les personnels contractuels, et ben ils participent à tout le travail administratif qu'il y a besoin de faire dans les juridictions et qui est important évidemment, mais c'est pas ça qui permettra de réduire les stocks, parce que c'est pas ça qui permet de traiter les dossiers en tant que tels.
Il s'est donné un objectif, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, je le disais aujourd'hui, 1 300 000 dossiers en attente dans cette justice civile. Il veut en réduire le nombre de 15% d'ici un an, ça veut dire 200 000 dossiers bouclés et arriver à un délai moyen d'attente qui serait de 6 mois d'ici 3 ans pour les divorces ou les prud'hommes. Avec la politique actuelle enclenchée, ce n'est pas tenable pour vous?
Écoutez, j'attends de voir de quelle façon sont calculés ces délais. Hein. Évidemment, l'objectif de faire réduire les délais de jugement et le traitement des affaires, il est louable, évidemment. C'est également un but qu'on poursuit et c'est vrai que ces délais, ils sont totalement excessifs et inadmissibles. Mais je vois pas en quoi ces 1000 contractuels sur toute la France feront la différence et permettront d'arriver à ces chiffres.
On entend les appels à plus de moyens dans la justice depuis des années, notamment de la part des syndicats de magistrats comme le vôtre. Nous aurons embauché 2000 personnes au total en moins de 6 mois. Personne n'a fait ça jusqu'ici, dit le garde des Sceaux. Est-ce que vous lui reconnaissez tout de même d'enclencher ces embauches ?
Bah écoutez, encore une fois, ces embauches, ce sont des embauches de personnes qui ne vont pas rester. Et encore une fois, la précarité de leur contrat, ça les incite pas à rester. Donc, on aurait préféré, évidemment, que ce soit des embauches de personnes qui vont rester dans la justice et qui feront le travail, encore une fois, qui est attendu des personnes pour que les litiges soient traités. Et, si vous voulez, en France, on a 11 juges pour 100 000 habitants, alors que la moyenne en Europe, elle est de 21 juges pour 100 000 habitants. Et la moitié des pays européens ont plus de 17 juges pour 100 000 habitants. Donc on est
c'est
loin.
Donc sur la formation de ces magistrats qu'il faut agir, si on vous a bien entendu. Il y a un autre sujet, Anne-Sophie Vallac, sur lequel j'aimerais revenir avec vous. Demain, mercredi, Éric Dupond-Moretti commencera aussi à défendre son projet de loi de réforme de la justice devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Vous avez parlé au syndicat de la magistrature d'une loi fourre-tout et qui n'aborde pas l'essentiel. Qu'est-ce qu'il y manque ?
Bah écoutez, il y manque une cohérence parce que, écoutez, il y a un certain nombre de dispositions qui ont déjà été modifiées avec la loi du 23 mars 2019, c'est-à-dire il y a même à peine 2 ans. Et cette loi, elle a à peine été entrée en vigueur en janvier 2020, puis même plus tard. Donc ce qu'on attend, c'est une cohérence dans les réformes, notamment en matière de procédure pénale, ce qui n'est pas du tout le cas avec ce projet de loi qui va être présenté.
Parmi les mesures, il y a là aussi une volonté de réduire les délais, limitation des enquêtes préliminaires menées par le parquet à 2 ans, généralisation des cours criminels sans jurés dès 2022 pour les crimes où l'on risque 15 à 20 ans de prison. Ce sont essentiellement des viols.
Oui, alors en ce qui concerne la procédure pénale, nous considérons que ça ne touchera pas la majorité des affaires qui sont traitées, qui au contraire sont traitées de façon trop rapide à notre sens et dans lesquelles il y a recours à la comparution immédiate. Et en ce qui concerne
les cours criminels
départementales, c'est une justice qui n'est quand même de moindre qualité que la justice de la cour d'assises et on déplore au contraire l'extension d'une expérimentation qui n'a même pas été menée à son terme alors que c'était ce qui était prévu dans la loi.
La suppression des réductions de peines automatiques en prison pour donner du travail supplémentaire aussi à des juges d'application des peines qui sont déjà surchargées, je crois que c'est votre métier, c'est quelque chose que vous redoutez ?
Bah écoutez, la suppression des crédits de réduction de paie, elle nous a évidemment surpris parce qu'elle était demandée par aucun des professionnels. Donc il nous semble que ça va effectivement augmenter la charge de travail des juges de l'application des peines et des fonctionnaires de greffe, mais également que ça va faire augmenter le temps passé en détention pour les personnes, alors que c'est pas du tout l'urgence actuellement, que les prisons sont surpeuplées, que les personnes ont, notamment à cause de cette surpopulation, pas accès aux activités, au travail qui permettent justement de favoriser la réinsertion et de prévenir la récidive. Donc c'est là que l'urgence était à notre sens.
Très bien. Je voudrais revenir sur un dernier point avec vous. Outre ce projet de réforme de la justice pénale, le garde des Sceaux va aussi présenter à la fin du mois un autre projet de loi sur la responsabilité pénale sous l'effet de stupéfiants. C'est un projet de loi de circonstance, selon vous, après l'affaire Sarah Halimi ?
Oui, effectivement, c'est un projet de loi circonstance qui fait suite à cette affaire sur laquelle il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui n'étaient pas exactes et qui méritent évidemment une réflexion de plus grande ampleur, même si c'est bien de parler de cette question dans le débat public. Il faut que cette réflexion elle se fasse sur la base d'éléments réels et de ce qui se fait actuellement dans la justice et pas d'incantations et de lois de circonstances.
C'est-à-dire, y a-t-il, comme le dit le ministre de la Justice, un vide juridique sur l'absence de possibilité dans la loi aujourd'hui de tenir compte de la prise volontaire de substances par un individu dont le discernement serait ensuite aboli ? Il y a un vide juridique aujourd'hui ?
Je dirais pas qu'il y a un vide juridique, mais en tout cas, c'est une question qui n'est pas spécifiquement adressée parce qu'on ne peut pas faire des lois, si vous voulez, pour chaque affaire qui se présente. Mais en revanche, les expertises psychiatriques, elles prennent en compte l'ensemble de la situation de la personne. C'est pas exactement ce qui est dit par le ministre.
Effectivement, puisque...
Europe 1, Théo Manval.
À 7h10, l'innovation du jour, comme chaque matin, avec vous Anissé Mbida. Bonjour Anissé.
Bonjour Théo.
Et votre innovation ce matin devrait intéresser tous ceux qui font du sport dans leur salon, et ils sont nombreux avec la pandémie. Vous nous parlez de meubles déco, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, mais qui cache en fait des appareils de fitness.
Oui, on a vraiment l'impression de voir un objet de déco. Il y a par exemple un tabouret, tout simple, rond, coloré, avec un pied central. Mais en appuyant sur un bouton, on le déverrouille, ce qui permet de faire des squats assis en montant et en descendant. Il y a même plusieurs niveaux de résistance. Il y a aussi un coussin, là encore très classique, tout doux, mais avec un ressort à l'intérieur qu'on doit contracter ou étirer pour faire travailler ses bras ou l'intérieur des cuisses. On trouve comme ça une dizaine de meubles ou d'accessoires de fitness. Il y a des poufs pour faire des abdos, des tables basses pour faire des étirements. Et même des petits coussins lestés qui se transforment en haltères. On vous a mis une vidéo sur le hashtag Europe 1.
Des coussins haltères. Alors ça reste quand même limité. On ne pourra pas faire les mêmes exercices que dans une salle de sport.
Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas le but. Hein. L'objectif, c'est plutôt de vous inciter à les attraper dès qu'on a 5 minutes pour faire une ou deux tractions en regardant la télé, par exemple. Et chaque meuble est d'ailleurs livré avec un petit tuto vidéo avec tous les exercices qu'il est possible de faire. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans de très haut niveau, hein. On est plutôt dans le simple maintien de la forme.
Et ça coûte cher ?
Pas trop, une cinquantaine d'euros le tabouret, donc on est dans les prix d'un objet déco classique. Et bizarrement, c'est un équipementier sportif qui a mis ses meubles au point, c'est le japonais Mizumo, qu'on connaît plutôt pour ses baskets. Absolument. De running. Et c'est vraiment révélateur d'une tendance. Vous avez peut-être remarqué, le design des vélos d'appartement et des rameurs évolue, il s'intègre beaucoup mieux aux intérieurs. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux à pouvoir dédier une pièce spécialement pour la gym chez soi. En général, ça finit toujours dans le salon. Hein.
Ça sent le vécu, non?
Oui.
Merci beaucoup Anissé Mbida, l'innovation du jour. À demain. Ils sont nos yeux et nos oreilles sur tous les continents. Les correspondants d'Europe 1 nous attendent pour votre revue de presse internationale. Et on commence aux États-Unis ce matin avec vous Alexis Guilleux. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait la une à New York?
Eh bien, le divorce de Bill et Melinda Gates, le fondateur de Microsoft et sa femme, se séparent après 27 ans de mariage, titre USA Today, mais le couple va continuer à travailler ensemble dans leur fondation pour la santé et le développement. Cette séparation risque de provoquer une onde de choc dans le monde de la philanthropie, de la santé publique et des affaires, écrit le New York Times. La fortune du couple lui permet d'exercer une grande influence sur la planète. La fondation Gates pèse 50 milliards de dollars. Depuis un an, ils se sont engagés dans la lutte contre la pandémie, souligne le Wall Street Journal, en soutenant les campagnes vaccinales. Et le Washington Post raconte l'histoire du couple Gates, la rencontre à Microsoft à la fin des années 80, le mariage en 94 et les trois enfants. Le journal fait un parallèle avec une autre séparation, celle du patron d'Amazon, Jeff Bezos, et sa femme, Mackenzie Scott, il y a deux ans. Un divorce record à 36 milliards de dollars.
Merci Alexis Guilleux, correspondant Europe 1 aux États-Unis. On file maintenant en Allemagne, retrouver Hélène Kohl. Bonjour Hélène.
Bonjour.
De quoi est-ce qu'on parle ce matin outre-Rhin ?
C'est une institution qui fait la une ce matin ici, la fête de la bière, incontournable rendez-vous de l'automne à Munich. Sauf que cette année encore, le couperet est tombé, écrit la FAT. L'événement est annulé pour la deuxième fois consécutive à cause de la pandémie. C'est officiel maintenant, titre le Merkur de Munich, mettant fin aux espoirs et aux rumeurs des derniers jours. Pour le Süddeutsche Zeitung, l'annulation était inévitable, car c'est la fête populaire qui attire le plus de visiteurs dans le monde, et c'est aussi la plus internationale, on y vient de partout. Même le Bild se range à l'idée, car note-t-il, une fête comme celle-ci ne peut pas avoir lieu avec des restrictions, ce serait contraire à son esprit, tout comme ce serait une honte de céder à l'appel du désert, critique le tabloïd. Certaines brasseries sont en effet en discussion avec Dubaï pour déplacer la fête sur le site de l'exposition universelle qui s'ouvrira là-bas en octobre.
L'Oktoberfest à Dubaï. Merci beaucoup Hélène Kohl, correspondante Europe 1 en Allemagne. On termine ce tour du monde en Argentine avec vous Flora Genoux. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait les grands titres des journaux à Buenos Aires ?
C'est le rapport d'experts sur la mort de Diego Maradona, accablant pour l'équipe médicale, rapport remis à la justice hier. Il s'agit d'un texte de 70 pages, décrit le quotidien Página 12. Diego Maradona a agonisé pendant les 12 heures avant sa mort, rapporte le journal. Il aurait eu plus de chances de survie s'il avait été interné dans un centre médical spécialisé, soulignent les experts. Selon eux, le traitement était déficient et inapproprié. L'enquête ouverte après la mort de l'ex-joueur en novembre dernier doit déterminer s'il y a eu non-assistance à personne en danger de la part de l'équipe de médecins chargée de son suivi, rappelle le journal El Cronista. Ils n'ont pas fait grand-chose pour lui sauver la vie, accuse un médecin historique du numéro 10 dans des propos repris par le journal sportif Olé. Le site d'information Infobae relaie l'indignation des sœurs de Maradona. Notre Diego chéri ne méritait pas de mourir comme ça.
Flora Genoux pour Europe 1 en Argentine. Votre fenêtre sur le monde avec nos correspondants, c'est tous les matins, juste avant 7h.
Europe 1.
Il est 6h55, la météo et le journal arrivent dans quelques secondes avec Sébastien Krebs pour le 7-9 ce matin. A tout de suite. 6h58, bon réveil et merci de nous avoir suivis depuis 5h. Sébastien Krebs s'est levé un petit peu plus tard aujourd'hui.
Pas beaucoup plus tard.
Il vous informe jusqu'à 9h. Bonjour Sébastien.
Bonjour Théo Manval, merci d'avoir réveillé les auditeurs d'Europe 1 depuis 5h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Europe 1, on écoute le monde changer. Et ce matin, on va regarder vers le bout du tunnel. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça. C'est dans quelques jours. Les trois coups vont résonner au théâtre. Les rideaux des salles de spectacle vont pouvoir à nouveau se lever devant des spectateurs. 19 mai, prochaine étape du déconfinement. Comment les patrons de salles abordent ce redémarrage qui va forcément être très progressif? Dans quelles conditions allons-nous retourner au spectacle? 7h40, le patron du théâtre Mogador à Paris et sur Europe 1, le tête-à-tête avec Laurent Bentata. Le spectacle, mais aussi le tourisme qui reprend, la réouverture des frontières. Nous en parlons ce matin. Et la vaccination qui accélère avec une explosion du nombre de rendez-vous pris ces derniers jours. Faut-il aller encore plus vite, élargir les critères? Le ministre de la Santé vous répond ce matin sur Europe 1. Olivier Véran face à Sonia Mabrouk à 8h15. Soyez les bienvenus. On commence par le temps du jour. Bonjour Laurent Cabrol.
Salut Sébastien.
Parapluie ce matin.
Hein. La pluie, alors c'est un jour sans, c'était hier. Un jour avec, c'est aujourd'hui. Et ça sera ainsi de suite jusqu'à samedi, dimanche, qui seront très très beaux. Hein. Alors un jour sans, c'était hier. Un jour pluie, aujourd'hui. La pluie est arrivée cette nuit sur le littoral de la Manche et les Ardennes. La voici qui s'en va, avec les vents qui se calment un peu, parce qu'ils ont soufflé jusqu'à 130. Val-de-Loire, région parisienne, Champagne et Lorraine. Nous allons vers les éclaircies, mais très lentement. Sur Paris, ce sera dans le courant de l'après-midi. Si vous êtes en Poitou-Charentes, massif central, l'ensemble des régions, Limousin, Auvergne, Bourgogne, Alsace, Franche-Comté, Rhône-Alpes, là, ça va se gâter au fil des heures. Et puis, si vous habitez l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées, le bassin méditerranéen, attendez-vous à un ciel voilé, mais un temps plutôt agréable. À Bordeaux, les pluies seront là en fin de journée. Les températures maximales entre 14 et 20 degrés, il en fera 17 dans la capitale. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Merci d'avoir choisi Europe 1 ce matin, soyez les bienvenus. Bon réveil.